record de 2022. Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Cordes en 2022 et nous allons parler d'un événement tout à fait exceptionnel. Enfin, moi, je le considère comme un événement. Je l'aime pas trop, donc vous m'écoutez avec un peu d'humour, bien sûr. Faut pas prendre ça trop au sérieux, parce que nous allons parler de la fête de Saint-Michel. Pourquoi c'est un événement? C'est que, je ne sais pas si vous avez reçu une lettre de la mairie, mais enfin, elle a été distribuée dans beaucoup d'endroits, une invitation à tout le monde à fêter la Saint-Michel. Le problème, c'est que c'est un événement pour deux raisons. L'une part, ça vient de la mairie, et ça c'est un événement. Et deuxièmement, ça vient dans le courant de Cordes 2022, c'est une nouveauté, et il y a... enfin, ça, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, je pense que ça serait, c'est intéressant de réfléchir à cela avec humour, hein, bien sûr, bien sûr. Mais dès que il y a des choses auxquelles il faut faire attention, parce que quand Cordes a été fondée, Raymond VII ne connaissait pas l'église Saint-Michel, puisque elle a été bâtie des années après sa mort. Donc ça n'intéresse personne de voir comment Raymond VII faisait la fête à Saint-Michel. Il ne le faisait pas, c'est très bien. Mais enfin, c'est ça. Donc, pas de Saint-Michel jusqu'en 1263. Et ensuite, bon, petit à petit, évidemment, l'Église a fait la fête de Saint-Michel, puisque c'était la fête patronale de l'église de la paroisse de Cordes. Tout à fait normal, ça se fait partout, c'est devenu une habitude. Jusqu'à quand, au fait? Eh bien, dans la lettre du maire, ils disent que jusqu'au début du XXe siècle. Et le XXe siècle, ça peut vouloir dire des tas de choses. Bien sûr que dans la lettre d'invitation, on nous dit « c'est bon de recommencer, de reprendre une vieille tradition de Cordes de la fête de Saint-Michel ». Moi, ça m'embête, parce que d'une part, j'aime pas trop Saint-Michel, mais ça, c'est une autre affaire. Mais le XXe siècle, c'est le début de la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, à partir du XXe siècle, il n'y a plus de fête de Saint-Michel. Dans la municipalité, dans la politique, il y en a à l'Église, bien sûr. L'Église, elle continue à faire les fêtes des saints et des anges comme elle veut, quoi. Mais normalement, il ne devrait pas y en avoir. Or, c'est là ce que je trouve l'événement qui m'a retenu, c'est que d'une part, une structure politique comme notre cité administrative, quoi, notre municipalité, etc., nous propose une fête religieuse, chose qui normalement ne devrait pas se faire. Et peu importe, même si l'an prochain on décide de la refaire, ça ne me dérange pas énormément, parce que sur l'histoire de l'humanité, c'est pas si important que ça. Mais je pense que pour nous, c'est l'occasion de réfléchir à un certain nombre de choses, en particulier par rapport à l'actualité aujourd'hui dans le monde où on est. Comment faire pour faire face à demain, à tout ce qu'il y a, au climat, etc., etc. Alors, essayons de réfléchir à Saint-Michel. Saint-Michel, il faut se rendre compte que c'est un symbole. D'abord, il y a des statues partout, vous voyez, d'une certaine façon, c'est un symbole, mais c'est en même temps un outil, un instrument, voilà. Un symbole de l'attitude de l'Église chrétienne, on parle de l'Église catholique en Occident, en France même, disons en Europe, vous voyez. Quand on voit Saint-Michel, on pense de suite à un combat. C'est la statue de Saint-Michel, que ce soit celle qui trône au-dessus du mont Saint-Michel ou celle qu'on a ici dans nos églises, à droite, à gauche, peinture ou statue, c'est le combat, d'un ange, peu importe, archange, ange, etc., peu importe, mais c'est un combat contre un dragon. Un dragon ou un serpent, ça dépend des endroits, mais il n'y a pas de différence entre les deux en dans la mythologie. Hein. Donc, se laisser influencer par l'attitude de Saint-Michel, c'est accepter la vie comme un combat. Et ça, c'est pas rien. Parce que le dragon dont on va en parler, ou le serpent, on va en parler, c'est le monde. C'est la nature, c'est le cosmos, c'est la vie des hommes, c'est l'histoire. Donc on se situe, normalement, un bon chrétien, c'est un bon combattant. Et ça, c'est embêtant, parfois. Quand, par exemple, on entend, en 2022, le président de notre chère République française dire qu'avec le Covid-19, on est en guerre, c'est pas possible, vous voyez ? Ça, bien sûr, en tant que chanoine du Latran, il est bien content de penser combat. Vous voyez comment il est manipulé, en quelque sorte, par cette image, cette habitude qui nous a été inculquée, parfois depuis l'enfance. Moi, je m'en rends compte, puisque mes parents m'ont donné comme prénom Michel pour que j'imite Michel tout au long de ma vie. Et j'ai essayé de pas l'imiter, évidemment. Mais enfin, vous voyez. Donc, être un combattant, d'accord, mais un combattant contre qui, contre quoi? Et le problème, c'est que en face, on nous propose le dragon. Et ça, il faut y réfléchir. C'est quoi ce dragon-là? Avant d'entrer dans ce sujet-là, on pourrait peut-être s'arrêter une petite minute.
Rule the way.
2022, Michel Bonnet. Donc nous parlons de Michel, de Saint-Michel, et de l'archange Michel, et disant que c'est un symbole de l'attitude de l'Église de vis-à-vis du monde, et comment chaque chrétien, si on suivait l'Église, devrait être un combattant. Un combattant contre le mal. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le mal. Mais enfin, bon, on va y réfléchir. Je disais, le deuxième point, c'est que, plus qu'un symbole, Michel, Saint-Michel, c'est un outil. Pour ça, il faut se remettre un peu dans l'histoire du christianisme. Lorsque les apôtres, après la mort de Jésus-Christ, se retrouvent à Rome et à essayer de diffuser l'enseignement de Jésus-Christ à droite à gauche, ils se retrouvent face à des tas de légendes, de mythes, de croyances, de religions, les unes très liées aux politiques, d'autres pas du tout, enfin partout. Jusque dans la moindre... Dès qu'il y a un être humain quelque part, il y a un mythe qui se crée à l'intérieur de cet être humain, et c'est une de nos caractéristiques, une de nos beautés d'ailleurs, c'est que on réfléchit à notre place dans le monde. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Ou qu'est-ce que je dois faire sur Terre? Ça, c'est la deuxième question qui vient rapidement. Et donc l'Église se retrouve avec des tas de conceptions, à la fois une conception de qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que le cosmos, avec les mots d'aujourd'hui, je parlais. Et donc, il faut qu'elle détruise cela pour implanter sa notion à elle, son mythe à elle, du Dieu, Père de Jésus-Christ ou Seigneur, enfin, on l'appelle comme on veut, peu importe. La question aujourd'hui n'est pas du tout de juger de la religion par rapport à Jésus-Christ et tout ça. C'est de se rendre compte que les responsables du christianisme à l'époque de il y a 2000 ans, donc se retrouvent obligés de prendre toutes les croyances qu'ils trouvent à droite, à gauche, puisque c'est du concret. Une source ici qui donne la vie, là un chêne qui abrite, là une grotte, plus loin une rivière, n'importe quoi. Et chaque fois, il tombe sur une divinité ou une expression de la divinité dans les croyances des gens qui viennent là. Et donc il faut qu'elle, elle remplace, elle veut remplacer cette notion de divinité présente partout, par la notion d'un Dieu unique, personnel, qui est le maître du monde, qui est le maître de la vie de chacun. Donc elle va réinterpréter toutes ces légendes, toutes ces croyances, pour donner une autre vision du monde. Puisqu'à l'époque, et ça a duré assez longtemps, les gens dans toutes les tribus, les peuplades, faisaient toujours le lien entre les forces de la nature, disons, pour aller vite, les forces, tout ce qui nous entourait, tout ce qui entourait les gens, et puis par derrière, au ciel, des forces spirituelles qu'on appelait des divinités, ça peut être les signes du zodiaque, n'importe quoi, vous voyez, on connaît tous cette mythologie, qu'elle soit grecque, latine, étrusque, celtique, etc., etc. Et donc, face à tout cela, l'Église, elle dit, c'est Jésus. Elle cherche à dire, c'est Dieu, c'est notre Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ qui est le seul existant, le seul vrai et le seul que l'on doit suivre. On a à ce sujet-là, ça a été à peu près réglé justement aux alentours de l'époque qui nous intéresse, de Raymond VII. C'est tout ce qu'on appelle les historiens le temps des barbares, le haut Moyen Âge, vous voyez. Et pratiquement au temps de Raymond VII, on est arrivé à avoir une synthèse. On sait un peu d'une façon générale, c'est pas encore bien conçu partout, mais là, on réussit à avoir une certaine idée générale. Et pour ça, nous, on est, aujourd'hui, on est aidé parce que il se trouve que justement au XIIIe siècle, on a un ponte, un intellectuel de haut niveau. Vous le connaissez sans doute, Voragine. C'est un grand penseur de l'époque, donc qui a essayé de résumer tout cela. Et lui, il regarde, il analyse la situation en France, il regarde quels sont les endroits où il y a des grands rassemblements de population, des pèlerinages, des fêtes importantes, des évêques qui parlent bien et qui sont écoutés, etc. Et il résume tout cela avec en disant, eh bien, il y a quatre saints en France, il y a quatre lieux en France où Dieu est présent de façon particulière, des lieux saints, des lieux sacrés, et à chacun, il dit, ça correspond à un saint, et il y en a un, c'est Saint-Georges, l'autre, Saint-Michel, le troisième, Sainte-Marthe, et le quatrième, Saint-Bernard. Alors, bon, juste un mot sur, vous avez peut-être lu, c'est pas tout à fait sûr, hein, que tout le monde connaisse bien les livres de Voragine. Mais ce qui est intéressant, c'est de repérer, d'une part, qu'est-ce que c'est ces gars-là. Georges, c'est un mythe. Complètement, il n'a jamais existé. C'est simplement des légendes de soldats qui se sont trouvés à comme Maurice par exemple, se sont retrouvés à protéger des gens au lieu de les tuer. Bon, donc Saint-Georges, peu importe, ce qu'il y a, c'est que c'est un combattant, c'est un soldat, il est toujours en armure, à cheval, partout où vous le voyez, que ce soit à Compostelle ou ailleurs, vous le retrouverez toujours à cheval avec son armure et son épée. Et puis il y a Saint-Michel, bon, alors là, il fait partie de tous ces quatre grands, hein, il faut pas, bon, on va pas en parler plus longtemps. Il y a Sainte-Marthe, c'est extrêmement intéressant de signaler Sainte-Marthe, parce que Sainte-Marthe, c'est une nana, d'ailleurs déjà c'est intéressant de voir qu'il y a une femme là-dedans, qui était à Tarascon. Tarascon, c'est en face de Beaucaire, et c'est les grandes fêtes de Sainte-Marthe à Tarascon et à Beaucaire. Raymond VII a vécu ça quand il était minot, c'était la grande fête, mais pour rappeler la Tarasque, la Sainte-Marthe, c'est la sainte qui est arrivée au bord du Rhône et où elle s'est retrouvée avec des populations effrayées, paniqué parce qu'il y avait un dragon, une tarasque qu'on appelait à l'époque, et qui venait me dévorer régulièrement les jolis garçons ou même plutôt les jolies filles de la région. Et elle a réussi, elle l'a tué, elle a vaincu, donc comme Saint-Michel, le dragon, etc. Marthe a, et depuis, on fait la fête, et on fait encore aujourd'hui la fête de la Tarasque à Tarascon et à Beaucaire. Et puis il y a Saint-Bernard. Alors Saint-Bernard, c'est pas celui des Cathares, c'est pas celui d'ici. C'est Saint-Bernard de Menton, le Saint-Bernard qui était en Savoie et qui, comment dirais-je, protégeait le col du Grand Saint-Bernard. On lui a mis maintenant le nom de Saint-Bernard à cause de ça, mais le col du Grand Saint-Bernard, c'était un des passages les plus importants entre le sud et le nord de l'Europe. Donc, c'était une voie de passage préhistorique, et à toutes les époques, on a accordé une grande importance là. Donc, vous voyez, quatre lieux extrêmement importants. Et Voragine nous dit, mais attention, regardez ce qu'il y a de particulier, c'est que dans ces lieux-là, il y a habituellement une montagne, c'est soit une montagne, soit un pic, etc. Il y a de l'eau qui coule à flot, le Rhône par exemple, bon, la montagne, n'en parlons pas, le Grand Saint-Bernard, etc., ou le Mont-Saint-Michel, si on va vers la Normandie. Et donc, il y a ces trois lieux, et chaque fois, il y a un endroit où les gens habitent, une grotte, un creux, etc. Bref, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais il nous dit que disons, dans la mythologie de l'Église, la lutte vis-à-vis des démons, vis-à-vis du mal, etc., elle est toujours liée d'une façon ou d'une autre à la montagne, à la grotte, à l'eau. Il suffit de penser aujourd'hui à la place de Lourdes et de Notre-Dame de Lourdes, avec la montagne des Pyrénées, avec la grotte et l'eau à boire. Vous voyez, on est toujours dans le même mythe depuis très 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 longtemps. Et donc voilà, on va s'arrêter avant d'aller un peu plus loin.
CFM Cordes, CFM, l'esprit rock.
Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, bah je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh, chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courdisent. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye, on ne te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh, chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courdisent. Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non? Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez, circulez, madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Aux femmes, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme il dit. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh, chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courdisent. Et tout le monde ferme les yeux.
Cordes 2022, Michel Bonnet. Nous continuons notre réflexion sur Saint-Michel. C'est un peu tarabiscoté parce qu'on ne peut pas aller dans le détail. Mais en citant Voragine, le grand écrivain médiéval, ce qui me semble important de se rappeler, d'une part, c'est que il y a toujours eu des gens qui ont réfléchi et qui ont créé des liens pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire, toute cette religion, tous ces aspects de la vie religieuse, etc., d'une part. Et ça, c'est à l'époque de Raymond VII. Et Dieu sait si à l'époque de Raymond VII, que ce soit avec les Cathares ou avec d'autres, la religion, c'était pas que de l'eau bénite. C'était aussi le bûcher quand ça allait pas bien, etc., etc. Donc, on n'était pas tendre. Il fallait avoir des idées claires, les plus claires possibles là-dessus. Et puis, le deuxième point que je veux souligner, c'est que, vous voyez, Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, il est à l'intérieur d'une panoplie, je dirais, à l'intérieur des outils que l'Église utilise selon les lieux. Au Mont-Saint-Michel avec la mer, c'est pas exactement comme à Beaucaire avec le Rhône, mais il y a des points communs, etc. Et donc, c'est important de se rendre compte que tout ça, c'est pas neutre, vous voyez. Quand on se met à réfléchir à tout cela, d'autant plus que le point commun qu'on trouve partout, c'est qu'il y a un combat contre des forces du mal. Et ces forces du mal, elles sont dans la nature, je veux dire, dans notre environnement. Hein. Les gens souffrent du soleil, du froid, de la neige, du tonnerre, d'une inondation, etc., etc. On voit aujourd'hui comment on souffre et on panique même avec le Covid-19. Pourtant, le virus, c'est pas très gros. Hein. Eh bien, ça fait peur, ça donne de l'angoisse, etc. quoi. Et il y en a qui se disent, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et à partir, justement, de l'époque de Raymond VII, je dis Raymond VII, c'est pas à cause de Raymond VII, mais c'est pour dire qu'on est dans notre ambiance de corde, quoi. Hein. À partir de cette époque, il y a un virage qui se fait par rapport à tous ces problèmes de relations entre Dieu et l'environnement naturel, Dieu et la vie où on est. C'est qu'on se met à réfléchir à tout ça en se disant, mais qu'est-ce que c'est? Le tonnerre, c'est quoi? La lumière, c'est quoi? Le vent, c'est quoi? C'est pas forcément, on se dit, mais c'est pas forcément Dieu qui est présent là-dedans. Vous voyez? Au fur et à mesure que l'Église, à la fois, d'un côté, supprime la présence de Dieu dans toutes ces religions, croyances, mythes, etc., qu'elle appelle le paganisme, elle le remplace, mais finalement, par une place de l'homme obligé de réfléchir à qui il a affaire en face de, quand il est face à la nature. Et donc ça, c'est important parce que ça dirige la vie quotidienne et ça fait une grosse, énorme transformation dans la façon de penser les choses. Jusque-là, c'est un peu de la philosophie, et c'est le grand philosophe français Michel Foucault. C'est pas vieux, hein. Michel Foucault, c'était un gars de ma génération, quoi, si on peut dire, un grand philosophe, et qui nous dit que là, c'est là où le gros changement qu'il y a eu, c'est dans la façon de penser. Jusqu'aux alentours du 12e, 13e siècle, on pensait par analogie. Analogie, c'est-à-dire qu'on cherchait des similitudes, des points communs. On disait, tiens, le vent, c'est ça. Quel point commun il y a entre le vent et puis un oiseau? Quel point commun il y a entre l'eau qui coule et un serpent? Vous voyez, des choses comme ça. Et ça, c'était une façon de penser, mais qui ne poussait pas à aller de l'avant. On était là, on se protégeait, on se disait qu'est-ce qui va se passer, on sait pas trop, etc. Et tout d'un coup, on se met à chercher des règles, des lois, qui proviennent de ce qu'on a en face de nous. Qu'est-ce que le vent? Bon, eh bien, il faut chercher. Qu'est-ce qu'un éclair? Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que l'eau, la terre, les plantes, les arbres, etc. Et donc, tout d'un coup, l'homme se met à réfléchir de façon logique. Il utilise non plus son sentiment, le sentiment que on se ressemble avec un dragon, on se ressemble avec un cheval, avec un chien, n'importe, vous voyez. Non pas des ressemblances, mais de la logique, de la réflexion, jusqu'à ce que on sache qu'est-ce qu'il y a véritablement en face. Et même si ça prend du temps, et de fait, à partir de cette époque-là, on va vers un monde nouveau où l'homme se met à réfléchir, la technique forcément s'améliore, puisque la réflexion, c'est pour améliorer les relations avec le milieu ambiant. Et donc, on arrive dans une autre mode de pensée complètement nouveau, celui dans lequel on est aujourd'hui, et qui est la logique. Mais là, tout d'un coup, on évacue Dieu. Dieu n'est plus présent. Si on s'occupe de la raison et qu'on cherche véritablement dans ce qu'on a en face de nous, dans un smartphone, dans une chaise, n'importe quoi, si on creuse et pour savoir qu'est-ce que c'est qu'on a en face de nous, on va très loin et c'est presque sans fin. Or, voyez ce que ça signifie, c'est que jusque-là, l'Église, enfin les religions, mais en Europe, l'Église alliée d'ailleurs au pouvoir royal, puisque les Capétiens et les rois et l'Église, à partir du XIIIe siècle, n'ont fait qu'un union totale, et on s'est dit à partir de ce moment-là, mais Dieu, on n'en a plus besoin, peut-être, ou Dieu, c'est un mythe. C'est pas une personne. C'est une nouvelle conception de Dieu, une nouvelle conception du rapport à Dieu, mais surtout, c'est une nouvelle conception du rapport à notre environnement, aux êtres humains et aux êtres vivants, disons. C'est toute l'aventure de la science jusqu'à l'époque industrielle, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, où qu'on soit, on va se mettre à réfléchir à cela. C'est une transformation complète. Et pour comprendre le bouleversement que ça représente, parce que aujourd'hui, nous, depuis, au moins pour nous qui sommes vivants, on est nés, disons, dans ces 100 dernières années, à peu près tous. Donc, on n'a pas vécu en profondeur ces changements, on a été éduqués dans des études ou des habitudes de pensée qui sont logiques, qui sont raisonnables, ça faut pas le faire parce que ceci, parce que cela, voilà. Et donc on se rend pas compte de la révolution que ça peut être, de la révolution que ça représente. Mais c'est très 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 ancien, puisque ça remonte à bien avant le christianisme, avec tout le monde judéo-chrétien, tout le monde juif, qui est basé sur l'Ancien Testament, et vous savez, ça commence avec le récit de la Genèse, du paradis terrestre, où on nous dit, on est chassé du lieu, l'Éden, le paradis, où habite Dieu, on en est chassé pour se retrouver dans un autre monde qui est difficile à vivre, et où il va falloir se battre. Et on a un archange, l'ange Saint-Michel, qui nous interdit définitivement, qui est à la porte du paradis et qui décidera, selon qu'on s'est bien battu ou pas, si on pourra aller au paradis ou au ciel ou si on pourra pas. C'est d'ailleurs pour ça que autrefois, avant que Saint-Michel soit représenté sous la forme d'un guerrier, il est représenté en blouse blanche avec une balance à la main, disant un tel, le plateau monte, ah ben ça va, tu es léger, tu vas au ciel. Le plateau descend, tu descends en enfer. Et voilà, donc c'est comme ça aussi dès que Saint-Michel est le patron des pharmaciens, parce que il pèse le pour et le contre des maladies et des médicaments. On s'arrête une minute encore.
Ooh.
Michel Bonnet. Et donc, nous continuons à réfléchir à la fête de Saint-Michel à Cordes, cette année, ou d'autres années, peu importe, pour essayer de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Et donc, je pense que c'est quand même important de se rendre compte que Saint-Michel a tenu et tient encore dans le christianisme une place extrêmement importante. C'est à la fois un résumé de tout ce que enseigne l'Église et de tout ce que voudrait faire l'Église. C'est, bon, les autres religions, laissons-les de côté, mais ce qui est important quand on réfléchit à Saint-Michel, c'est de se rendre compte de cet aspect de combat, de lutte. Contre quoi? Contre quelque chose qui, dans toutes les statues, dans toutes les représentations, etc., a la forme d'un dragon. Disons de suite que, depuis toujours, dans toutes les civilisations, le dragon et le serpent sont deux êtres liés. Et en fait, l'animal, disons, le plus présent, le plus... que l'on retrouve absolument partout, le plus ordinaire, c'est le serpent. Parce qu'il n'y a pas plus simple qu'un serpent, c'est une ligne droite. C'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de pied, il n'y a pas d'aile. C'est l'expression la plus simple. Et puis ça se faufile partout, comme l'eau qui coule. Et donc, le serpent. Quand on cherche une façon de présenter le serpent un peu plus noble, un peu plus joli, etc., ça devient un dragon. Mais c'est assez amusant de voir que ce soit sur tous les continents, en Amérique latine, en Amérique du Nord, etc., on retrouve ces mythes d'origine du monde, des relations du monde avec les êtres humains, avec cette présence du serpent ou du dragon. Moi, par exemple, vous savez que j'ai passé pas mal d'années au Japon, donc je me suis intéressé un peu, même si c'est superficiel, mais un peu au mythe japonais, et c'est très important. Le serpent et le dragon, on le retrouve partout, à l'entrée des temples, etc. Et dans toutes les anciennes histoires, les fables, etc., il y a toujours des tas de contes là-dessus, parce que on pense que le serpent, c'est l'être le plus simple de tous les animaux de la Terre, et donc c'est un être unique. C'est le seul animal qui n'a absolument rien d'autre que son corps, sa chair, sans pattes, sans ailes, etc., etc. Et donc, pour les Japonais, par exemple, c'est l'essence même, ils appellent ça le corps de Dieu. Peu importe. Mais c'est pour dire l'importance que ça. Le serpent, c'est donc un être qui, à la fois, nous invite à, disons, à regarder ce qu'il y a de plus simple dans la nature, dans ce qui nous invite, dans ce qui nous entoure, etc. Parce que il va pouvoir nous amener très profond. Il se cache sous la terre, il vient de la terre, il se faufile partout comme l'eau se faufile partout. C'est vraiment un symbole de la nature des choses terrestres, de la vie sur terre. Et donc, que on le retrouve au centre de l'enseignement de l'Église, c'est évident. Chacun d'entre nous sait très bien que au paradis terrestre, qui c'est qui a été provoqué tous les ennuis de l'humanité, c'est le serpent quand il est allé dire à Ève, tiens, goûte ce fruit et tu verras, ça va aller mieux. Oui, donc c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Et donc c'est comme ça que le christianisme, à travers cette lutte entre d'un côté Saint-Michel ou les anges et les saints, etc., et de l'autre les forces de la nature symbolisées par les animaux, les plantes, donc les serpents, les dragons et tout le reste, c'est à travers ça que on essaie de nous manipuler, le mot est trop fort peut-être, mais enfin de nous transformer en bons chrétiens, c'est-à-dire en un bon combattant, en réfléchissant peut-être le moins possible. Or, c'est ce point-là, qui personnellement me gêne et qui, je crois, demande à ce qu'on y réfléchisse. Est-ce que c'est bien de concevoir notre place d'être humain dans le monde sous la forme d'un être qui doit terrasser le monde, qui doit éventuellement détruire l'adversaire, le monde. Et vous voyez de suite où je veux en venir, c'est que on est aujourd'hui dans une époque où justement on se pose d'énormes problèmes parce que on est sorti du petit périmètre, que ce soit le périmètre cordé ou méridional ou européen, etc., pour aller aux dimensions du monde. Et dans le monde, quelle est notre place dans le monde? Et on découvre aujourd'hui qu'on détruit le monde. Que notre histoire, depuis grosso modo, quelques siècles, de façon technique, mais de façon plus générale, depuis que l'homme est au milieu du cosmos, on le détruit sous prétexte de vivre. On se croit maître du monde et on a le droit de faire ce qu'on veut. On peut couper des arbres comme on veut, on peut tuer des animaux comme on veut, et donc ainsi de suite. C'est cette violence-là qui est extrêmement grave et que le monde d'aujourd'hui, l'actualité, nous dit, attention, il faudrait y réfléchir. Pourquoi ? Mais parce que tout d'un coup, la nature, elle se met à nous parler. Elle arrive avec des inondations, des incendies, au moins pour nous ici, tel qu'on le voit, tel qu'on nous l'annonce. L'air qui n'arrive pas à se purifier, progressivement, on va vers un réchauffement. Pour aller vite, un réchauffement climatique où on ne sait pas qui va vaincra, qui réussira à vivre, à survivre ou pas. On va vers une biodiversité qui commence à disparaître. Quasiment, on nous dit que seconde par seconde, il y a des êtres vivants qui disparaissent, etc. Et donc, cette attitude de se croire, disons, maître de la nature, maître de notre environnement, maître de, dès qu'on rencontre quelqu'un, comme si on avait le droit de se croire supérieur à l'autre, à celui qu'on a en face de nous, et de le détruire, simplement de le combattre, et même éventuellement de le détruire, tout simplement parce qu'il n'est pas comme nous. Il n'y a qu'à voir vis-à-vis des migrants aujourd'hui. Hein, il n'y a aucune raison de les empêcher de rentrer en France, par exemple. Il n'y a aucune raison de leur mener la vie dure. Et pourquoi? C'est simplement qu'ils sont différents de nous et ça ne nous plaît pas. À certains. Donc, on est là. Ça nous pose des gros problèmes de civilisation. Et c'est pour ça qu'il faut profiter de toutes les occasions pour se mettre à réfléchir à cela. Et c'est à cause de ça que, justement, je me suis dit, attention, cette histoire de Saint-Michel, on veut nous faire remonter avant le XXe siècle, reprendre les anciennes traditions qu'on a réussi à supprimer, et tout d'un coup, on voudrait les remettre. Et pourquoi faire ? Faire de Corde une cité verte, écologique, etc., ou autre chose. On est là sur un enjeu extrêmement moderne, tout à fait d'actualité. C'est notre attitude, notre façon de nous situer dans le monde, à travers nos actes et à travers notre pensée, c'est-à-dire à travers aussi notre regard sur le monde. Et dès qu'on pense le cosmos, un élément du cosmos, est-ce qu'on le pense comme un danger, comme un ennemi, comme quelque chose qu'il faut détruire peut-être, ou tout au moins quelque chose qu'on a le droit de décrire, de détruire, ou au contraire comme un élément du cosmos qui est un partenaire, quelqu'un, un être vivant, un être tout simplement, avec qui on peut passer un contrat, avec qui on peut travailler ensemble, que ce soit avec l'eau, pensons à cette immensité des richesses qu'il y a dans les océans, dans l'eau, les rivières, etc. Je dis l'eau, mais il y en a d'autres. On se retrouve avec ça. Finalement, pour moi, Saint-Michel, je l'aime pas trop. Pourquoi ? Parce que il y a des raisons personnelles d'éducation, peut-être. Surtout parce que je pense que il faut sortir de cette attitude de crainte de l'autre, de crainte de ce qui est différent, de crainte de la nature en général, pour se dire on peut être ami, on peut être frère, je dirais peut-être le mot est pas très bon, mais en tous les cas, il n'y a pas à avoir peur. Et c'est pour ça que je vois pas pourquoi il faudrait qu'on fasse la fête, puisqu'habituellement la fête, c'est pour oublier les peurs qu'on fait la fête. Il y a qu'à voir aujourd'hui, pour 2022, au lieu de s'occuper de l'histoire de Corde, 90% des gens qui viennent à Corde, c'est pour boire, danser, chanter, etc., se distraire, et comme autrefois avec l'érogation, etc. Bref, voilà quelques réflexions que je mets à la disposition d'un chacun, parce que je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir, que l'on soit d'accord ou pas avec cette vision de Saint-Michel. C'était Corde 2022 avec Michel Bonnet.
CFM. CFM. CFM Radio. CFM Cordes.